session de théologie, la création des péchés, par le père Philippe Arimon, le 22 février 1993, troisième cours.
Deuxième guerre mondiale, ou écroulement de toute notre société actuelle. Comment parfois ne pas avoir peur? Oui, c'est sûr. Je comprends. Alors il faut avoir une très grande espérance au-delà de cette situation limite. C'était un philosophe de Rome, italien, il y a quelques années, il y a au moins 10 ans. Il dit, notre monde entre dans une situation limite. La situation limite est un terme de la philosophie contemporaine qui est assez astucieux. Montre que le conditionnement quantitativement augmente tellement qu'il empêche de voir la finalité. Et c'est vrai, notre culture est quantitative. Elle est quantitative parce qu'elle est scientifique et technique. Et alors, elle augmente tellement que le conditionnement devient tel que... Mais je prends un exemple très simple. C'est la question, quand on doit faire une thèse, aujourd'hui une thèse de philosophie, n'importe quoi, et qu'on cherche tout ce qu'on a dit sur ce sujet, avant de commencer, on en a dit déjà tellement que quand on a tout lu ça, on ne sait plus quoi faire. Mais le conditionnement devient tel, tellement lourd que on avait une petite intuition avant. C'est David devant Goliath. Où est la limite du secret dans le couple? Ah, ça alors, ça c'est... Ou alors, ça va être très délicat. Très très délicat. Aujourd'hui, on dit qu'il faut tous se communiquer. Mais oui, c'est pas tout à fait juste. On reste, pour s'aimer, il faut être une personne. Et toute personne a son secret. Avec Dieu. Il ne faut pas oublier que le sacrement de baptême est avant le sacrement de mariage. Le rythme de l'épouse et de l'époux n'est pas le même pour des années. Il n'y a pas qu'une seule âme. Il y a deux âmes. Jusqu'à nouvel ordre. Et donc, la sainteté de l'époux, la sainteté de l'époux, je me souviens, c'est vieux, c'était l'abbé Caffarel, et si je peux le nommer, puisqu'il commence à vieillir. Alors, l'abbé Caffarel, que j'ai très bien connu, en 45, avant de partir à Fribourg, ça a commencé l'anneau d'or. Il voulait beaucoup que je travaille avec lui. Et moi, j'étais tout à fait d'accord, j'aimais beaucoup. C'est un saint prêtre. Alors, je disais, je ne suis pas d'accord. Il faut à tout prix qu'il y ait une unité absolue. Je dis non. On se respecte dans la diversité. Il n'y aura jamais l'unité absolue. L'unité absolue n'existe qu'avec Dieu. Qu'il soit un comme nous. Oui, et puis il y a le troisième. Toujours, forcément, il y a le Christ entre les deux qui finit. Avec le Christ, on peut avoir. Alors quand je dis ça, il dit, vous êtes sceptique vis-à-vis du mariage. Je dis, ah, je ne l'ai pas vécu, mais vous non plus. Alors vous idéalisez. Et c'est grave. Vous voyez, c'est la question d'avoir s'il faut le même directeur spirituel pour l'époux et l'épouse pour faire le rythme commun. Mais il dit non, il y a des divergences d'âme, il faut respecter. Il y a des attractions différentes du Christ. Vous voyez, c'est très très délicat. Alors, il n'y a pas de réponse commune. Vous voyez, on est devant une question de prudence et de sagesse. Aujourd'hui, on dit qu'il faut tout se communiquer. Or, s'il y a un secret de la relation que l'on a chacun avec Dieu, comment vivre de ce secret dans le mariage chrétien? Ce secret demeurera toujours. Parce que le baptême est antérieur à la grâce du mariage. Et la grâce sanctifiante est antérieure à la grâce du mariage. La grâce du mariage est là pour sanctifier cet amour, le surnaturaliser et donner la grâce pour élever les enfants, pour en avoir et les élever. Et il n'est pas le point de vue de dire que l'unité est la perfection de l'amour. C'est faux. L'unité est une conséquence. Et l'amour est principe et source. Alors vous n'allez pas identifier le fruit, la conséquence et la source. Ça prouve qu'on n'a rien compris à l'amour, ça. Et le secret fait partie de l'amour. Notre lien avec Dieu est unique. C'est très très important de comprendre ça. Et le secret, évidemment, engendre des silences. Mais si on s'aime beaucoup, on communique le secret dans le silence. C'est la grande astuce. Le secret se communique dans le silence. Parce que ça, c'est la présence silencieuse. Mais quand on s'aime beaucoup, c'est pas gênant d'être l'un à côté de l'autre dans le silence. C'est la communication des secrets. Bien plus que la parole. Et là, il ne faut jamais l'oublier. La charité fraternelle présuppose l'amour à l'égard de Dieu. C'est le même amour, mais il y a un ordre. La structure de notre vie chrétienne et communautaire, au point de vue religieux, c'est notre vie contemplative. Ce n'est pas la charité fraternelle. Pour respecter ces choses-là. Je sais qu'aujourd'hui, on tend beaucoup à l'aspect communication. C'est comme ça que certains philosophes définissent la personne. C'est la communication. C'est vrai pour la très sainte Trinité. Mais c'est pas vrai pour nous. Le Père donne tout au Fils, tout en étant Père. Et il y a l'unité. Je ne peux pas faire ça, moi. C'est pour ça que le constitutif formel de la personne divine, c'est la relation. Donc la communication. C'est vrai pour Dieu, c'est pas vrai pour l'homme. Face à la lutte actuelle, qui semble très apocalyptique, oui. Au déversement du mal sur la terre et la manifestation. Le jour où le démon se manifeste, c'est très grave. On sait ce qui se passe maintenant. Il y avait une émission comme ça. Je ne sais pas, quelques-uns peut-être d'entre vous l'ont vu. Moi, je n'ai pas vu, mais je suis arrivé chez un ami. Ça se terminait. Une émission sur tous les sorciers, toutes les alliances avec le démon autour de Paris. C'est affolant. Voir combien actuellement le démon n'hésite pas de se manifester. Il se manifeste. Et en Amérique, c'est encore pire. À cause du libéralisme plus radical qu'en France, qu'en Europe. Comment peut-on agir en étant fidèle à la volonté du Père sur nous. C'est-à-dire par la prière avec la Vierge Marie. Il y a un passage de l'Apocalypse qui nous donne la clé. C'est entre eux. Je vais vous dire ça, mais on va entrer dans l'Apocalypse et on ne va plus en sortir aussi, c'est ça qui est terrible. Faut qu'on entre dans l'Apocalypse, vous savez, on est cuit. Parce que c'est ce qu'il y a d'ultime. Alors on ne peut pas en sortir dans l'Apocalypse. Pour être sûr de ne pas me tromper, c'est pour ça que je regarde ça. Entre la sixième trompette et la septième trompette. Donc, vous voyez, c'est tout à fait ultime. La sixième trompette et la septième trompette. C'est vraiment, je crois qu'on y est. Alors on voit un secours particulier de Dieu. Jean a vécu ça.
Eucharistie et Marie.
vide est très forte, il n'y a plus que ça. L'Eucharistie est Marie. Vous voyez, ça c'est la nourriture des très grandes luttes. Alors c'est l'Eucharistie, ce sont les témoins de l'Eucharistie, ce sont les témoins de Marie. Et le pape est un témoin du mystère de Marie, si on ne peut pas nier. Il suffit de voir la devise du Saint-Père, quoi. Au pied de la croix, d'un témoin. C'est très mystérieux, ça, et c'est très grand, hein, ça se termine comme ça. Bon, alors, vous voyez bien, au point de vue efficacité, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On est pieds et mains liés. C'est vrai, on ne peut pas faire grand-chose, mais on peut beaucoup par la prière. Alors, je continue, parce que on n'a plus beaucoup de temps, hein. Mais j'aimais mieux que de faire un traité sur le péché, celui de saint Thomas, qui est très beau et qui est très austère. On terminera par là. Je crois qu'on a besoin d'abord de voir comment Dieu nous montre le péché. De voir que le péché apparaît tout de suite chez les anges, dans l'Apocalypse, passage de Michaël. Qui combat pour Dieu, avec Dieu, et les autres qui se révoltent et qui sont jetés sur la terre. C'est le cadeau que nous fait Michael, ça. C'est de donner, de jeter le dragon sur la terre. Alors, je vais aller très vite ici. Nous avons regardé le premier péché. Parce que dans l'ordre du péché, le premier, c'est très important. Parce que pour le péché, il n'y a qu'un ordre génétique. Et le premier commande les autres. Il n'y a pas d'ordre de sagesse. Le péché, c'est la brisure. Les 11 premiers chapitres de la Genèse, si je les regarde dans une perspective de théologie mystique, les 11 premiers chapitres de la Genèse ponctuent l'humanité par les péchés. C'est assez extraordinaire. Et je crois qu'on peut dire que les 11 premiers chapitres de la Genèse, ils sont préhistoriques. Ils ont une dimension métaphysique. C'est un peu comme la maquette de toute l'histoire du monde pour nous. C'est normal, si Dieu est un architecte, il donne une petite maquette, hein, pour qu'on comprenne. Alors il faut toujours mettre en parallèle ces 11 premiers chapitres de la Genèse et le prologue de saint Jean. Les deux grandes visions sur l'histoire de l'humanité. Alors, si je regarde de cette manière, l'histoire, je dis bien l'histoire de l'humanité, commence par la faute d'Ève, selon l'Écriture. Puisque avant, c'est la création. Donc c'est Dieu qui fait tout. Le gouvernement divin commence de fait par nous narrer la première faute. Ève, face au serpent. C'est pas drôle. Ça commence comme ça, l'humanité, l'histoire de l'humanité. La liberté d'Ève. On sait qu'Adam existe, mais Adam, ici, il est un peu paralysé. Il est paralysé par Ève. Scène de ménage avance. Et mon Dieu, une scène de ménage à l'égard de sainte, c'est-à-dire une sainte rivalité d'amour. Et elle, il reste un petit peu derrière. Dites tout ce que vous voulez, vous n'en savez rien. Alors, première faute, l'orgueil. C'est pas étonnant, parce que le serpent, il a péché par orgueil. Deuxième faute. Conséquence de la première. Cain. Et Abel. La première faute, l'orgueil. À travers la désobéissance. Donc face à Dieu. Face à Dieu. Face au commandement négatif. Tu ne mangeras pas de ce fruit. Cain et Abel, c'est à l'intérieur de l'adoration. À l'intérieur de l'adoration. Vous voyez, ce qui montre bien que le péché d'Adam et Ève ne supprime pas ce qu'il y a de bon dans la nature humaine. Puisque immédiatement après le péché, on voit Abel et Cain qui adore Dieu. Je dis ça contre Luther, contre Calvin, qui oublie ça. C'est quand même un enseignement très net. Cain et Abel adorent Dieu. S'ils adorent Dieu, ils sont religieux dans le sens profond. C'est un acte religieux, l'adoration. C'est l'acte religieux par excellence. Mais Cain, l'aîné, fils aîné, adore en louchant. Il ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Alors il regarde Abel. Abel ne regarde que Dieu. C'est très net hein, que chez Cain, il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'est exprimé de ce fait que justement, il est jaloux. Alors, on est en face de la jalousie. Vous voyez, l'orgueil engendre la jalousie au niveau de la charité fraternelle. Et la jalousie de l'aîné à l'égard du cadet. Or, c'est très souvent comme ça. La jalousie descend. C'est rare qu'elle monte. Mais on n'est plus jaloux à l'égard des petits derniers qu'à l'égard des aînés, parce que les aînés, c'est normal. Quand on aura leur âge, on fera mieux. Tandis que quand on voit des petits cadets qui sont beaucoup plus, qu'on s'intéresse beaucoup plus à eux, alors les aînés sont furieux. Alors c'est pas intéressé comme ça. On voit très bien ce que c'est. La jalousie, c'est un... Le second péché, c'est le péché de jalousie. Et voyez, ce qui est très curieux dans le second péché, c'est que on ne voit pas le démon présent, mais on dit qu'il est caché. Il est tapis là, dans le fond de l'imaginaire de Cain. Depuis les conséquences du péché, depuis le premier péché, la conséquence immédiate du péché, c'est que le démon connaît notre psychisme. Il ne connaissait pas le psychisme, il n'avait pas du reste d'Ève. Elle était sans péché, elle était innocente, elle était immaculée. Tandis que Cain n'est pas immaculé. Et la bête est là, tapis dans son imaginaire. Et c'est le propre de la jalousie. La jalousie, elle naît de nous. Elle naît à cause de notre curiosité. Jamais oublier ça. Une curiosité au moment où on ne devrait pas être curieux. Quand on adore Dieu, on est reclus en Dieu. On est entièrement pris et ordonné à Dieu. Or, Cain adore Dieu en restant dans son droit d'aînesse. Dieu devrait respecter son droit d'aînesse. Et donc Dieu devrait regarder en premier lieu. Dieu devrait s'intéresser à lui en premier lieu. Dans le présent. président de la République adore. Il dit, Seigneur, c'est pas si mal que j'adore. Moi, président de la République, c'est ce qu'on disait de De Gaulle, vous savez. On disait ça quand De Gaulle allait au Sacré-Cœur. Alors il transformait la chose. Hein. On disait au Sacré-Cœur, on avait confiance. Tu peux avoir confiance en moi. Et dans l'époque, il dit, ouais, très très bien. Oui, à la place d'adorer Dieu dans la nudité absolue de l'adoration, on doit adorer Dieu comme une pure créature. Donc, dans une dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce qui est montré de façon très belle dans l'Apocalypse. On voit les 24 vieillards qui jettent leur couronne en adorant. Ça va très loin, ça. Le savant comme savant n'adore pas. C'est l'homme, créature de Dieu, qui adore. Le philosophe, lui, peut adorer comme philosophe parce qu'il reconnaît que l'homme est une créature. L'artiste comme artiste a beaucoup de peine d'adorer. Il doit jeter sa couronne. C'est le geste même de l'adoration, doit jeter sa couronne. Pourquoi si peu adorent vraiment? Parce que ils ne jettent pas leur couronne. Caïn ne jette pas sa couronne. Il est fils aîné. Il a le droit d'aînesse. Celui qui a le droit d'aînesse, en tant qu'il a le droit d'aînesse, n'adore pas Dieu. Il ne peut pas adorer. Il est très fier de lui, très content. Il n'adore pas. Pour adorer, il faut reconnaître qu'on n'est rien en face de Dieu et que tout vient de Dieu. Abel, lui, c'est facile, il est le cadet, petit dernier, il est le benjamin. Alors, il jette sa couronne, il n'a aucun droit, il adore, il est reclus en Dieu. Et alors on voit très bien comment la jalousie va conduire à l'homicide. Le premier crime. Vous voyez, c'est la seconde. Et elle est à l'intérieur de la famille. Là, c'est une faute personnelle. L'orgueil. L'orgueil, c'est une faute par rapport à Dieu. La jalousie, c'est la faute par rapport à la charité fraternelle. On est jaloux de son frère, on est jaloux de sa sœur, on est jaloux de celui qui est proche de nous. Mais ordinairement, on n'est pas jaloux de quelqu'un qui est tout à fait étranger. Vous n'êtes pas jaloux du charcutier du coin. Non. Et qui gagne une fortune. Vous n'êtes pas jaloux. Tandis que si vous étiez charcutier, vous serez très jaloux du charcutier qui gagne plus que vous. Vous voyez, il y a un lien de fraternité dans la charcuterie qui fait que le charcutier est jaloux du charcutier. Et le philosophe, le théologien, vous n'êtes pas jaloux du charcutier. Très bien. Vous voyez, la curiosité à l'égard de celui qui est tout proche. Troisième faute. Alors, la conséquence, hein, Dieu punit Caïn. Le sang d'Abel. C'est le premier qui a versé le sang. Ça, c'est, on n'a pas le temps de le voir, mais ça vaut la peine, il faut relire cette scène de Caïn et d'Abel, il faut la lire souvent pour voir qu'est-ce que c'est que la jalousie. La jalousie est une chose terrible, et dès qu'on la sent, nous, il faut l'arracher, parce que c'est ça qui divise les communautés fraternelles, religieuses, sociales, n'importe quoi. C'est toujours la jalousie. La jalousie est source de la... et c'est toujours à base de curiosité. On aurait dû respecter l'autre, ne pas voir, pas regarder, pas regarder moi. Troisième faute, l'iniquité généralisée. n'a plus aucun respect de l'homme. L'homme ne regarde plus dans l'homme l'image de Dieu. Et donc, ici, c'est la charité. C'est contre l'amour. L'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard du prochain. Ici, c'est la justice. On n'a plus de respect. Or, la justice, c'est de respecter l'autre. L'iniquité généralisée, on n'a plus aucun respect vis-à-vis de son voisin. On considère comme rien du tout. Alors, l'iniquité généralisée amène le déluge. La punition de Dieu, c'est le déluge. Ils sont tous plongés dans le même bain d'iniquité. Et Dieu se réserve un homme, Noé. Oui, il y a comme une recréation à partir de Noé. Une recréation, tout est repris. Avec l'arche d'alliance, avec l'arche construite par Dieu. Dieu qui donne le plan, vous voyez, Dieu architecte. Ça, c'est la reprise de tout. Et qu'est-ce qui se passe avec Noé? C'est que Noé, c'est à partir de Noé que le vin apparaît. Quand même intéressant. Et Noé, il a fait sa première expérience. Il n'avait pas de prudence par rapport au vin. Il s'est enivré. Le vin peut enivrer. Des saints de Jean, Noé est un homme très saint. Et alors, il y a, à cause de l'ivresse de Noé, c'est très étonnant, hein, l'ivresse de Noé. À cause de l'ivresse de Noé, on voit, il y a des fils qui respectent la nudité. On retrouve la nudité du père. Et les fils qui ne la respectent pas. Alors, à l'intérieur de la famille, il y a une séparation, une division. Et Noé, je crois qu'il n'a pas été imprudent, il ne pouvait pas. Pas d'expérience. On ne dit pas quand même s'il a exagéré, non. Il s'est enivré. Et donc, tout est repris avec Noé. Nouvelle création. Et alors, ça se termine avec la tour de Babel. Quatrième. Pardon. La tour de Babel, c'est l'orgueil généralisé, collectif de l'humanité. L'humanité qui oublie Dieu, c'est l'oubli de Dieu. Et c'est montré très nettement, puisque Dieu est obligé de regarder d'extérieur ce qui se passe. Et l'humanité qui oublie Dieu veut construire une tour, la tour de Babel, qui atteint le ciel. Mais les hommes n'ont plus besoin de Dieu. Et font un œcuménisme extraordinaire. Un œcuménisme qui est d'ordre de l'efficacité. Le bitume et la brique. C'est l'efficacité pure et simple, exprimée symboliquement par l'homme. L'humanité s'en orgue et est fière d'elle-même. Très fière. Elle s'unit. Et en même temps, la conséquence, c'est que l'homme ne peut plus supporter l'homme. Division des langues. L'homme ne comprend plus l'homme. C'est extraordinaire de voir ça. Alors, langage symbolique. C'est évident que c'est un langage symbolique. C'est pas historique, mais ça exprime une réalité profonde. Alors, je crois qu'on peut dire que ça ponctue l'histoire de l'humanité. Vous allez tout de suite comprendre l'histoire de l'humanité, la recréation. Tout est recréé avec Noé. Et le vin nouveau. Donc c'est Jésus. Et l'ivresse de Noé, c'est Jésus sur la croix. Et devant la croix, un signe en butte à la contradiction. Les fils qui respectent le Père et ceux qui se moquent de lui. C'est très très beau de lire, voyez, en regardant cette petite scène familiale qui annonce le mystère du Christ. Et c'est vrai, c'est au moment puisqu'il n'y aura plus de déluge. Dieu le dit, il n'y aura plus de déluge. C'est un moment très très important avec Noé. Dieu dit, il n'y aura plus de déluge. Donc, Dieu remet aux hommes la responsabilité du développement de l'humanité. Jusque-là, Dieu exerçait son pouvoir absolu. Avec Jésus, il donne aux hommes une autorité universelle sur toute l'humanité, pouvoir décler. Il n'y aura plus de déluge. S'il n'y a plus de déluge, c'est les hommes eux-mêmes qui sont responsables du développement de l'humanité. C'est bien ce qui se passe. C'est bien ce qu'on se voit. Et c'est ça qui donne une conscience très profonde. Nous vivons, je crois, vous voyez, nous vivons ce temps, ici, la tour de Babel. L'humanité qui s'unit par le point de vue de l'économie. L'économie est mondiale aujourd'hui. On se tient tous. Et l'équilibre du monde, c'est avant tout et en premier lieu un équilibre économique. L'Europe, c'est l'économie. Mais ça va être une puissance qui pourra lutter contre l'Amérique et qui pourra tenir compte de l'Amérique. Et l'Amérique le sait. Et c'est pour ça que l'Amérique, à ce moment-là, commence à avoir peur de l'Europe à cause de l'économie allemande. C'est très curieux tout ça, hein. Mais c'est la tour de Babel. Les hommes, ils ne s'entendent plus. Ils parlent un langage tout à fait différent, mais il y a quelque chose. On veut sauver l'humanité par l'humanité. Et ça correspond exactement à ce que Saint-Pierre dit, cette méta-tentation. La méta-tentation de la tour de Babel. Et nous vivons ça. Comme il n'y a plus de déluge, on ne peut pas savoir. Qu'est-ce qui arrivera? Le retour du Christ. C'est la seule manière. L'homme est incapable de rétablir l'humanité. La faute d'Ève et d'Adam met toute l'humanité dans un état de pécheur à cause de nos premiers parents. On va voir ça. Toute la question du péché originel qui fait que toute l'humanité, ça reste. Rien n'est changé. Et l'Écriture continue de nous le donner. Cain et Abel. On voit très bien. Cain et Abel. Prototype. Selon les pères de l'Église. Il faut faire un tout petit peu attention ici. De le peuple béni. Choisi. Qui tue Jésus. Qui le supprime. Avec la coopération des Romains, je m'en lave les mains. Pilate s'en lave les mains. passe la querelle et la jalousie religieuse. C'est par jalousie pontificale que Jésus est mort sur la croix. C'est Abel qui meurt sur la croix. Et c'est une jalousie pontificale. La jalousie religieuse au sommet, elle est pontificale. Alors, on voit très bien qu'ici, on est en face du mystère du peuple d'Israël et de Jésus, le Benjamin, le plus petit et le plus grand, celui qui est fidèle. Vous voyez, c'est très curieux de voir comment cette maquette ponctue l'humanité, l'histoire des hommes, par le point de vue du péché. Alors, pour mieux voir, il faudrait comprendre en parallèle le prologue de Saint Jean. Je n'ai pas le temps de montrer, mais dans le prologue de Saint Jean, vous retrouvez exactement ces trois premiers moments. Avec le mystère du Verbe incarné. Et ces trois premiers moments, sans le quatrième, c'est Jésus qui sauve les hommes. Donc il n'y a plus la tour de Babel. Ceci, encore deux minutes, ceci nous fait comprendre dans la vision de la révélation le péché. Le péché d'orgueil, le péché de jalousie, l'iniquité généralisée. Ça, c'est l'aspect théologal. Les péchés contre Dieu et contre le prochain. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. L'iniquité généralisée, c'est les hommes entre eux. L'aspect politique qui se corrompt. L'aspect communautaire qui se corrompt. Il n'y a plus de justice. La justice disparaît, l'iniquité généralisée. Et tout est repris par le mystère de Jésus. Tout est repris dans la miséricorde. C'est l'alliance dans la miséricorde du cœur de Jésus. Et les hommes ne comprennent pas cette miséricorde. Les hommes ne comprennent pas cette reprise de tout. Et les hommes s'unissent en opposition des antichrists, s'opposent pour sauver l'homme par eux-mêmes, la tour de Babel. Vous voyez ? Alors là, on comprend la place du péché dans l'histoire de l'humanité. Et on comprend cette chose extraordinaire. Dieu, un tel respect de l'homme, il le laisse libre. Il le laisse libre. Il accepte lui-même de mourir pour montrer la gravité du péché. Il aurait pu sauver l'homme autrement. Il accepte que son fils bien-aimé meure pour montrer la gravité du péché. Qui d'une certaine manière atteint Dieu. Ça atteint Dieu parce que ça atteint le chef-d'œuvre de Dieu. En péchant, on se détruit. L'orgueil détruit. Vous voyez, l'orgueil détruit le cœur de l'homme. D'où la jalousie qui pénètre. Et la jalousie, quand elle pénètre, l'iniquité généralisée. Il y a comme une espèce de dialectique. Vous voyez, un progrès. Dans le mal. Tout est repris par le Christ, mais les hommes ne comprennent pas cette miséricorde. Et ils s'unissent comme une espèce d'anticorps mystique, anti-église. Ils s'unissent pour se sauver et prétendent qu'ils peuvent arriver par la science et par la technique de se sauver. d'avoir la maîtrise sur tout. La tour de Babel symbolise la tour de Babel. Alors, ça montre, vous voyez, que le péché, c'est pas uniquement une question morale, c'est bien plus profond. Le péché touche à l'intégrité de la dignité de la personne humaine. Pourquoi ? Parce que l'homme n'est parfaitement homme que s'il reconnaît Dieu et l'adore. C'est la dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine. Oui, Saint-Père ne cesse de dire que le propre de la personne humaine, c'est de se dépasser. L'homme n'est parfaitement lui-même que quand il se dépasse. Et le péché d'orgueil empêche l'homme de se dépasser. L'homme refuse l'autorité de Dieu. Et refusant l'autorité de Dieu par l'orgueil, il désobéit. Il veut se sauver par lui-même. Mais l'orgueil touche l'intégrité de la personne humaine, puisque on ne veut pas.
Session de théologie, la création, le péché, par le père Philippe Arimond, le 22 février 1993, quatrième cours. Connerie, c'est pas vrai.
Je ne peux donner foi à un maître de l'univers qui laisse mourir des enfants. Calme. La grande objection. Alors, c'est ce que j'allais, du reste, dire sur ce point au terme. Deux choses sur lesquelles je voudrais insister. Je voulais montrer comment l'Écriture souligne dans les 11 premiers chapitres de la Genèse et dans l'Apocalypse ce que représentent les tentations, ce que représente le péché. Et voyez, l'orgueil personnel, l'orgueil collectif. La tour de Babel. Alors, on a vu que Dieu crée par amour, dans sa sagesse, que Dieu n'abandonne pas l'esprit qu'il a créé. Les anges et les hommes, et que Dieu leur donne cette capacité de se gouverner eux-mêmes, sagesse qui leur permet de se gouverner eux-mêmes et de se gouverner dans la liberté, parce que Dieu attend de l'homme l'adoration qui ne peut exister que si elle est libre. Dieu attend de l'homme un amour contemplatif qui ne peut exister que s'il est libre. Dieu a créé librement l'esprit et il veut que l'esprit, que les hommes spirituels retournent vers lui librement, c'est-à-dire dans l'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de liberté. Alors ici, je ne traite pas ce problème extrêmement important très nette, celle de Thomas d'Aquin, celle de Descartes. Et avant Descartes, celle d'Occam. Pour Thomas d'Aquin, l'acte moral n'existe que s'il y a un amour spirituel. On ne peut être responsable de ses actes qu'à partir de l'amour. Pour Descartes, la liberté est antérieure à l'amour. On a une idée innée de la liberté, antérieure à tout amour. Et la liberté, c'est la spontanéité d'un esprit. N'est libre que ce qui est spontané. Donc, c'est presque un acte instinctif. Au contraire, un acte très délibéré. Il y a un peu les deux extrêmes chez Descartes. Et chez Occam. Bon, ça c'est une très grave question, très importante, qui fonde, vous voyez, deux aspects très différents de la morale. Je crois qu'on aurait, en gros, une morale de la nature et une morale de la personne, comme on dit aujourd'hui. La morale de la nature, c'est une morale qui commence par le point de vue de la finalité et qui commence par l'amour. C'est une morale tendue vers le bien. Et la morale de la liberté, c'est la morale de la personne qui s'oriente là où elle le veut. Où elle le veut. C'est la morale de la situation de Sartre, en définitive. Je n'accepte pas, et je crois qu'on ne doit pas l'accepter, cette séparation nature-personne. Il n'y a pas de personne sans la nature. Et la nature de l'homme implique la personne. Donc, c'est une fausse division. Il ne faut pas entrer dans cette division. Il ne faut pas dire la morale de Saint Thomas est une morale de la nature. Mais non, c'est une morale de la personne. La personne seule est sujet d'opérations dont il est responsable, dont elle est responsable. Et la personne ne peut exister que avec une nature spirituelle. Elle implique une nature spirituelle. C'est la fameuse définition de Boès de la nature. Une substance individuelle dans une nature raisonnable. Et c'est vrai que tout de suite, vous voyez, il met la personne impliquant la nature et impliquant une certaine autonomie. Mais c'est un problème très important, mais plus philosophique que théologique, auquel il faut tout le temps revenir, parce qu'on est tout le temps affronté à ce problème-là. Amour, liberté. Je crois que ce qu'il y a de plus fondamental en nous, c'est l'amour. Il n'y a pas de vraie liberté sans amour, sauf la liberté de l'artiste. La liberté de l'artiste repose sur son inspiration, pas sur l'amour. Un artiste est libre dans la mesure où il est inspiré. Un artiste qui n'est pas inspiré du tout n'a aucune liberté. Et alors il y a une liberté qui relève de l'inspiration et une liberté qui relève de l'amour. Il y a deux types de liberté, hein. La liberté de l'artiste, qui est une liberté d'exercice. La liberté de l'amour, qui est avant tout une liberté de choix. Et c'est pour ça que c'est toujours très difficile d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la liberté. C'est sûr qu'il y a quelque chose de commun dans la liberté de l'artiste et la liberté de l'ami. Mais c'est deux types de liberté très très différentes. Je crois qu'avant de regarder qu'est-ce que c'est que la liberté, il faut décrire et essayer de comprendre la liberté de l'homme moral, l'ami, et la liberté artistique. Alors, il y a une troisième liberté, la liberté politique. Mais c'est curieux, hein. La liberté prend des modalités très différentes selon nos diverses activités et selon les personnes différentes. Dieu crée des êtres capables d'aimer, capables de le rejoindre librement, toujours par l'amour. Mais dans l'amour, l'amour qui vient de Dieu, qui vient de nous. Dieu va demander dans ce développement de l'amour des actes libres. Je peux m'éloigner de ma faim. Je peux me détourner de ma faim. Et je serai alors en présence de ce qu'on appelle un acte pécamineux, le péché. Le péché est toujours un acte volontaire et libre. Il n'y a pas de péché quand vous êtes dans la nécessité. Il n'y a pas de péché quand vous êtes au niveau uniquement instinctif. Le sommeil. Si dans le sommeil, vous devenez somnambule, et que vous avez une idée d'aller tuer votre voisin et que vous le faites en somnambule, c'est triste pour le voisin. Mais vous n'êtes pas pécheur à cause de ça. Mais donc faites grande attention de jamais avoir comme voisin ou comme voisine un somnambule. C'est jamais ce qui arrivera. C'est très curieux, le somnambule, c'est un phénomène très particulier. Mais sans aller jusque-là, vous voyez, on voit très bien tout ce qui se passe quand on est pris par les songes, par les rêves, par les cauchemars, en dehors du point de vue moral. Le péché est un acte moral qui implique la volonté et la liberté. Mais le péché n'est jamais un acte moral premier. Il présuppose toujours un amour. Il n'y a pas de péché sans amour. Un amour qu'on rejette. Un amour qu'on détourne. Il n'y a pas de péché sans un minimum de passion. Et de la passion amour. Mais le péché n'est pas dans la passion. Le péché n'est pas dans l'instinct. Le péché est dans la volonté. Et c'est pour ça qu'on fera cette distinction capitale, très nécessaire, quand on parle du péché, de voir qu'est-ce qu'il y a de formel dans le péché. C'est l'acte volontaire qui se détourne de sa faim, qui ne veut pas la regarder. Donc tout péché implique un détournement de l'attention qui nous relie à la fin, à notre fin. Et le péché se réalise toujours dans un acte volontaire. L'acte volontaire comme tel, c'est l'aspect quantitatif, ontologique du péché. Le péché qui se réel, c'est un acte. Mais l'aspect formel du péché, c'est une négation de ce qu'on aurait dû faire. On aurait dû se conformer aux exigences de notre fin, et on ne se conforme pas aux exigences de la fin. Donc c'est une privation, c'est une négation. Ça, c'est l'aspect formel du péché. Il manque quelque chose. C'est un acte bancal, le péché. C'est un acte imparfait. sincèrement, vous ne pouvez être jaloux de quelqu'un que parce que vous l'aimez. Il y a un premier amour qui s'est développé, mais tout d'un coup, il y a eu une mauvaise mouche qui vous a piqué et que vous faites attention. Ah ! Elle peut être mon rival ou ma rivale. Elle peut passer avant moi. Alors à ce moment-là, je serai à l'ombre à cause d'elle. Je serai rejeté à cause d'elle. D'où, à partir de ce moment-là, on commence à vouloir la rejeter. Et tout ce qu'elle fait, on le considère attentivement comme des actes qui nous font du mal parce qu'ils nous empêchent d'être parfaitement nous-mêmes, parce qu'ils nous empêchent de conquérir la personne qu'on aime. Alors ils sont là pour nous empêcher ça. C'est quelqu'un qui passe devant nous alors qu'il est venu après nous. Le péché est avant tout un péché d'orgueil, mais les conséquences du péché originel que nous allons préciser implique les trois concupiscences. Et ceci s'est révélé, hein. C'est dans la première épître de Saint Jean. Faut jamais dire, hein, le péché originel, c'est l'Église qui l'a inventé, mais non. C'est bien plus vieux. C'est dans la première épître Saint Jean. Vous savez, le péché, les conséquences du péché originel existaient avant que vous existiez. Donc c'est pas vous qui l'avez inventé. Première épître de Saint Jean, chapitre 2, je crois. Je vais vous lire le passage. N'aimez pas le monde, en chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et la forfanterie des biens, rien n'est du Père. Mais cela est du monde. Et le monde passe, ainsi que ses convoitises. Mais celui qui fait... mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure à jamais. Donc vous voyez, le monde pris dans le sens, le monde sous la mouvance du démon. C'est bien qu'il y a deux affirmations dans l'Écriture. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. N'aimez pas le monde. Oui. Parce que d'un côté, le monde, c'est le monde livré au démon, aux convoitises du démon. Et de l'autre côté, le monde, c'est l'homme. Donc il faut le savoir. Et si Saint-Esprit a laissé ça exprès, c'est pour que nous fassions attention et que nous soyons intelligents. Et que nous lisions l'Écriture avec un peu d'intelligence. La foi ne supprime pas l'intelligence. Au contraire, la foi réclame l'intelligence. Donc le péché, c'est la convoitise de la chair. Des péchés charnels, des péchés de convoitise charnelle, qui sont ou les péchés de gourmandise, ou les péchés contre la chasteté, ou les péchés contre le point de vue d'un cœur qui veut être virginal. Les gros péchés de gourmandise. On a tous sur la conscience un petit péché de gourmandise quand on était jeune. Moi j'espère. La confiture, le miel, bien gâché, puis qu'on a pris en surprise. Bien gâché, vous avez aidé. Il y a les péchés de jalousie. Ah, c'est déjà beaucoup plus grave, c'est contraire à la charité. ça, je crois que c'est la concupiscence des yeux. J'ai vu tout à l'heure. Et puis, l'orgueil. Ces trois grands aspects. Vous voyez bien, l'orgueil, c'est pas la peine d'en parler, parce qu'on a l'expérience. Bon, chacun d'entre nous a son expérience. Quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas l'expérience de l'orgueil, je dis, mon pauvre type. Mon pauvre type, tu es dans la gueule du démon, et c'est pour ça que tu ne t'en aperçois pas. Parce que quand le démon est en train, quand le chien est en train de ronger l'os, il n'aboie pas. Il aboie quand le mollet est extérieur à sa gueule. Alors voilà, il aboie. Bien, quand on est dans la gueule du démon, il n'aboie pas, on ne sait plus. Je n'ai pas discerné. Quand on est en dehors, on voit très bien ce que c'est que l'orgueil. L'orgueil, c'est un péché volontaire qui a comme matière l'intelligence. Nos actes d'intelligence. On veut que l'intelligence, on veut, donc volontaire, on veut que l'intelligence passe devant tout. On veut être toujours premier. L'orgueilleux ne tolère pas d'être second. Parce que quand on est second, on suit. Et l'orgueilleux ne veut pas suivre. Il veut être original. Il y a des maladies comme ça d'originalité qui n'acceptent pas la vie commune. Par orgueil. Donc l'orgueil, on veut être premier. Et c'est péché. De l'orgueil, comme le péché de la volonté qui porte sur l'intelligence. On veut s'exalter. Alors, je vais maintenant regarder quelque chose qui est particulièrement difficile, mais dont on doit parler. C'est nécessaire de parler de ça. Avant, il faut que je réponde à Camus. Dieu laisse l'homme libre. Et l'orgueil engendre la jalousie. Et la jalousie engendre l'homicide. C'est net. Le péché originel. Premier péché, engendrer dans l'homme un déséquilibre. Nous allons essayer de préciser. Et ce déséquilibre a fait que la maladie existe. La maladie est une conséquence du péché. Toi, c'est sûr. Pas nécessairement du péché personnel. Hein. Parce qu'il ne faudrait pas dire, moi je ne suis jamais malade, donc je n'ai pas péché. Regardez-moi, je suis immaculé, puisque je ne suis pas malade. Ne confondons pas santé et sainteté. Ne confondons pas le point de vue du péché et le point de vue de la maladie. Il ne faut pas confondre. Mais il y a un ordre. Ça c'est sûr, il y a un ordre. Alors, c'est l'orgueil qui est à l'origine de tout le mal. Ça, c'est net. Les Grecs le disaient sans la révélation. Et la révélation le dit avec force. Donc c'est toujours l'orgueil qu'il faut voir, que c'est là où la faute est la plus forte, où elle va le plus loin, parce qu'elle touche Dieu. Elle atteint Dieu. On se révolte contre Dieu. Dieu permet la faute d'orgueil. Pourquoi ? Parce que Dieu respecte l'intelligence et l'esprit. Et Dieu peut permettre cela en vue d'un plus grand bien. vérifier quand un père de famille, devant un fils ou une fille qui grandit et qui se révolte, le père excédé peut dire à un moment donné, je ne m'occupe plus de toi, fais-en à ta tête, mais tu en prends toute la responsabilité. On a tous vu ça. Et quand le père dit ça, il attend de reprendre le fils au tournant. Tu vois bien, je te l'avais dit, tu t'es cassé la tête. Je t'avais prévenu. Dieu ne dit jamais ça. C'est toute la différence de la permission humaine et de la permission divine. Dieu nous laisse libre. Personne n'a autant de respect de nous que Dieu. C'est peut-être dans un monde libéral, c'est peut-être ça qui frappe le plus pour l'existence de Dieu. Parce qu'il est source de l'amour, parce qu'il est source de l'intelligence, il est source de la liberté. Et donc il la respecte. Il la respecte à l'origine. Dieu sait que l'homme est capable de pécher dans sa liberté. Et Dieu le laisse libre. Donc permission de Dieu, permission du Père. Et Dieu ne nous attend pas au tournant en disant, je te l'avais dit, tu vois, tu es tombé, tu t'es détruit, tu t'es abîmé, je t'avais dit. Si vous prenez de l'envie, vous mourrez. Oui. Alors je peux très bien traduire ça de cette manière-là. C'est tout à fait comme un bon père de famille. Si tu me désobéis, tu verras, tu casseras la tête. On voit très bien ça. Dans tous ces exemples. Je n'en sors pas aux exemples personnels. Alors, ce serait une relecture de mes actes passés, c'est pas la peine de la faire devant vous. Et on voit très bien, tous, on a tous dans la tête une colère paternelle. On a mis son père en colère parce qu'on a insisté, on a insisté, on a insisté, mais le père n'a pas compris. Mais à la fin, le père a dit, oh, si tu veux, fais-le. Puis je te laisse libre. Mais tu en porteras toutes les conséquences. Dieu ne fait jamais ça. Parce que quand Dieu permet, c'est pour nous reprendre dans une plus grande miséricorde. C'est ça qu'on oublie. Et c'est ça que Camus oublie. Si Dieu permet un enfant qui souffre, un enfant qui meurt, c'est parce que Dieu l'aime d'une manière telle que pour lui, c'est son bien. Ça, il faut y croire. Vous ne pouvez pas le constater psychologiquement. Vous ne pouvez pas constater psychologiquement qu'un gosse qui meurt, c'est pour son bien. Parce que vous oubliez que derrière le point de vue humain, il y a le point de vue surnaturel. Alors le point de vue surnaturel, il faut la foi. Dans Camus, très difficile de savoir si Camus avait la foi. Sa mère était espagnole. Et sa mère avait une grande foi. Parce que pour comprendre Camus, il faut aller à Oran. Où on voit très bien le point de vue français, espagnol, très lié. Et sa mère était espagnole. Et Camus mettait ses enfants à l'école libre catholique. Parce qu'il avait un respect très grand. Et il redécouvrait la foi. Quand il est mort accidentellement, de façon invraisemblable, il devait retourner sur Paris, il avait pris son billet pour retourner vers le chemin de fer. Et puis un de ses amis a dit, mais je retourne en auto, viens. Sauf qu'on a retrouvé le billet de chemin de fer sur lui. Il a pris la voie de l'auto et il a été très très vite, son ami, il conduisait très très vite, il conduisait très bien, mais très vite. Il a loupé un tournant, il partait. Il est mort en pleine force de l'âge. C'est très, très... C'est, vous voyez, là encore, hein, comme c'est mystérieux quand il dit ça. C'était comme pour lui. Il recherche de la vérité. Dieu ne prend jamais quelqu'un à l'improviste. C'est toujours l'heure où c'est bon pour lui. Toi, c'est la bonté de Dieu, mais on ne la voit pas. Moi, je compare toujours la conduite de Dieu sur nous à une tapisserie. Quand vous regardez une très belle tapisserie, renversez-la. Qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez que des nœuds. Vous les mettez à l'endroit. Oh. Nous, on ne voit que des nœuds. Des pépins. On ne voit que des nœuds. Des choses qui arrêtent, qui arrêtent, qui arrêtent, qui arrêtent. Et en réalité, un jour, on verra que, quand on sera en face de Dieu, on verra que tout est ordonné pour notre bien. Mais voyez, c'est un acte de foi. Philosophiquement, je ne peux dire qu'une seule chose. Puisque Dieu est Père et qu'il m'a créé par bonté, il m'aime. Il ne serait plus Dieu s'il m'abandonnait. Donc, nécessairement, il ne m'abandonne pas. Et ça, des philosophes stoïciens le disaient. Il faut voir les prières des stoïciens qui sont très belles à l'égard de Zeus. Et ça, je peux le dire. Je peux dire en même temps, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous ne voyez qu'un aspect. Vous voyez l'envers. Mais les permissions de Dieu ne peuvent se comprendre que parce que Dieu voit plus loin que nous. Et qu'il peut se servir même de la souffrance pour aller plus loin dans l'ordre de l'amour. Tandis que psychologiquement et humainement, c'est difficile pour moi d'utiliser la mort. Je peux offrir ma mort tous les jours à Dieu et dire à Dieu, je sais que si je meurs aujourd'hui, c'est pour mon bien. C'est un acte de confiance qu'on fait à Dieu. Ça apaise beaucoup, ça enlève toutes les angoisses. C'est le grand procédé pour être angoissé, puisque tous les psychologues reconnaissent que l'angoisse provient de la mort. S'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait pas l'angoisse. Alors vous pouvez offrir la mort. Vous pouvez offrir votre mort. Et tous les jours, vous devez offrir votre mort, parce qu'on ne sait jamais. Surtout aujourd'hui. Alors offrir sa mort, c'est se remettre dans une confiance totale au bon plaisir de Dieu. Et dire que c'est Dieu qui gouverne tout. Et que c'est Dieu qui... Que si Dieu me met à... Il est plus grand que moi. Il sait mieux que moi ce qui est mon bien. Vous voyez, alors là, il y a un problème que philosophiquement, je ne peux pas résoudre. Je tiens les deux bouts de la chaîne. Dieu veut ma liberté. Si je suis libre, je peux faire des bêtises. C'est bien évident. Et Dieu me laisse libre. Et si Dieu me laisse libre, c'est toujours pour mon bien. Mais je ne vois pas. Il y a des quantités d'actes dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis ça. Pourquoi Dieu a permis quand j'étais gosse de faire des tas de bêtises. Pourquoi Dieu a permis ça? J'étais pas coupable, je savais pas très bien ce que c'était. Alors c'est là où la grande Sainte Thérèse a un principe merveilleux. Ne jamais juger le passé selon les lumières qu'on a actuellement sur notre vie. C'est tellement important ça, surtout quand on tombe dans le scrupule. Dieu nous donne actuellement des lumières et on ne peut pas juger notre responsabilité sur les lumières qu'on a actuellement. Donc ça exige de nous une remise totale entre les mains de Dieu au plan chrétien. Oui. Donc vous voyez la réponse à Camus, c'est de dire je comprends très bien, vous êtes scandalisé. Eh bien oui, c'est vrai. Le scandale n'est pas un mal. On est scandalisé devant le mal. Je suis scandalisé devant ce mal si grand qui prend l'humanité d'aujourd'hui. Ces injustices si flagrantes. On est scandalisé. Le scandale est d'ordre intellectuel. Je ne comprends pas, je suis scandalisé. Le scandale conduit à la révolte. Ou le scandale conduit à l'abandon. Je dépasse ce scandale pour m'en remettre au bon plaisir de Dieu. pas, mais je sais que Dieu lui comprend. Ou bien au contraire, je me révolte. Mais c'est les conséquences du scandale qui peut être quelque chose qui est mauvais. Mais le scandale comme tel, quelqu'un qui n'a jamais été scandalisé dans sa vie, c'est triste. C'est triste. On a beau lui marcher sur les pieds, il ne réagit pas. Ça prouve qu'il y a quelque chose de mort en lui. Quand notre intelligence est vivante, il y a des choses qu'on n'accepte pas et qu'on ne peut pas accepter. Quand on a un sens de la justice, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Donc on se révolte. Tu vois, on se scandalise. Et bien alors, on doit savoir s'il faut se révolter politiquement. La révolte au plan politique n'est pas toujours un mal. Contre Dieu, oui. Et alors, on s'en remet entièrement pour plaisir de Dieu. Alors, la question du péché originel, qui est une des questions les plus difficiles, douloureuses aujourd'hui. Vous voyez, on pourrait faire toute une session sur le péché originel, mais uniquement le péché originel. Et on aurait l'état de la question aujourd'hui. Il y a un livre qui est paru il n'y a pas très longtemps, d'un bon père jésuite, le père Barthelet, qui est un homme merveilleux, spirituel, qui a écrit un livre sur le péché originel. Personnellement, je regrette qu'il l'ait écrit. Hein. Parce que c'est complètement d'à côté. Si on regarde bien, si on essaie de comprendre, du moins de voir ce que c'est que le péché originel, vous voyez, alors, il montre que le péché originel n'est plus acceptable dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, il va essayer d'expliquer le péché originel, tu vois, de montrer que le péché originel est inacceptable dans le monde d'aujourd'hui à cause de l'évolution. Et prenez, l'évolution, c'est une donnée qui a du plus et du moins. On en revient sur l'évolution Darwin, vous savez bien. À la fin de sa vie, Rostand disait, et ça je le tiens d'un des meilleurs amis de Rostand, à la fin de sa vie, Rostand disait, il faudra sans doute revoir entièrement cette question d'évolution. On a beaucoup exagéré. Alors qu'à un moment dans sa vie, il disait des choses affolantes au nom de l'évolution. Il y a eu une exposition sur l'évolution il y a quelques années au Trocadéro, c'était très intéressant et très amusant maintenant. Très astucieuse. Je connaissais bien celui qui avait organisé ça, de quelqu'un de très grand et très bon chrétien. Très bon chrétien. Il avait son fils qui était professeur à Fribourg. Alors il venait de temps en temps faire des conférences et il me disait toujours, quand il prenait conférence sur l'origine de l'homme, tout ça, après avoir dit ça au point de vue scientifique, j'aimerais qu'un théologien se lève et dise dans la lumière de Dieu, voilà ce qu'on peut dire. Parce que, est-ce que c'est le savant qui doit parler de l'origine de l'homme? Ou est-ce que le savant devrait dire je n'en sais rien? Vous voyez, il avait une espèce d'humilité merveilleuse de grand savant. Alors à la fin, quand il a terminé, il a pris la limite d'âge qu'il devait arrêter, il y a eu une exposition au Trocadéro. Alors ça a commencé par le tout petit animal, et puis ça a terminé, ça montait. Puis en sortant, une grande glace. Ça, c'était tout l'humour de ce grand professeur. Chacun voyait l'évolution. C'est très beau, ça. Et au fond, c'est vrai, ça, c'est tout à fait juste. Parce que c'est une manière de penser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très difficile. C'est très, très difficile. J'ai dû recenser il y a quelques années. C'était en l'an 50. Donc c'est déjà vieux. que tu recensais un livre qu'un professeur de là-bas, de Laval, de l'université de Laval, m'avait confié. C'est une des thèses qu'il avait soutenue. Théorie de l'évolution. Au plan scientifique, au plan philosophique, au plan théologique. Théorie. Et ce professeur avait fait la préface. C'était Karl de Coninck, c'était Thomas de Coninck. Et alors moi, j'ai essayé de faire le plus loyalement possible. J'ai été consulté tous les professeurs de sciences biologiques à l'université pour voir qu'est-ce qu'ils disaient. Je leur ai montré les textes. On dit, c'est inacceptable au point de vue scientifique. On essaie. Mais, vous savez bien, discutable, on peut discuter. L'évolution est partielle, vous savez bien, la manière dont Rostand a traité en tant que science, en tant que savant, ceux qui veulent faire une théorie philosophique de l'évolution. Il a été très dur, il y a eu des pages extrêmement fortes de lui, en disant, si l'évolution existe, elle n'existe qu'au niveau biologique, au niveau de la vie biologique. Elle ne peut pas exister au niveau d'esprit. Donc on ne peut pas transposer l'évolution du biologique au physique et du biologique au non. Là, c'était très honnête. Et même au niveau biologique, aujourd'hui, il y a des livres qui montrent qu'on a beaucoup exagéré. Peu importe. C'est une question grave. Il ne faut pas trop s'engager trop vite. Il faut être très très prudent là-dessus. Parce que personne ne sait comment l'homme est apparu dans cet univers. Personne ne le sait. Avec certitude. On sait qu'il est apparu, puisqu'on est ça, puisqu'on est là. L'armoire à glace, on sait qu'on est là. On comprend très bien. Je suis là. Donc, il y a eu une origine, il y a eu un premier. Y a-t-il plusieurs premiers point de vue scientifique? Ça semble très difficile. Il y a eu un premier. La Bible nous donne un premier, sous un mode symbolique, donc sans aucune précision scientifique. Et le philosophe dit qu'on ne peut pas savoir comment il y a eu un premier, premier homme, première femme. C'est très très difficile. Ça reste un problème. C'est très beau, moi je trouve qu'on ne sait pas le point de départ, alors on fait des mythes. Il y a des mythes, vous savez bien, le mythe colombien sur la création de l'homme, c'est le plus ancien, c'est le plus extraordinaire, le mythe colombien. Vous savez ce qu'il dit, hein ? Au commencement était le canard. Et le canard dit au soleil, il n'est pas bon pour moi d'être seul. Je trouve ça admirable. Vous voyez le canard enchaîné. Il n'est pas bon pour moi d'être seul. Et alors, le soleil répond au canard. Tu as des pattes qui sont faites pour cela. Plonge dans l'eau. Tu vas ramener l'argile. Et à partir de là, je ferai l'homme. Mais c'est extraordinaire. Au fond, l'homme a raconté, c'est très intéressant. À un moment donné, je me suis amusé de vendre tous les mythes sur l'origine de l'homme et de la femme. Même celui de Platon. C'est très intéressant. Parce que ça montre que l'homme est hanté par son origine. Et je comprends du reste. On est hanté par ça. Surtout au moment où la finalité disparaît. Alors on revient sur le fondement, on revient sur l'origine, sur le passé. Alors le péché originel, c'est une question de foi. Donc, la science, la philosophie ne dit rien. C'est une question de foi. La foi dit quoi ? Que Adam et Ève ont été créés par Dieu comme les princes de l'humanité, les premiers, responsables par le fait. de toute l'humanité. Et c'est cette donnée-là qu'on efface. Alors on n'y comprend plus rien du tout. Tu aurais pu très bien faire l'humanité autrement. Il a voulu que ce soit comme ça. Il a voulu que l'homme dépende de l'homme par la procréation. Il aurait pu très bien faire autrement. Chacun aurait pu être tout de suite créé par Dieu d'un seul coup. Alors il y a les... C'est pour ça qu'il y a la comparaison du premier Adam et du second Adam. Le Christ. Vous comprenez qu'on doit comprendre le premier Adam dans la lumière du Christ. En bonne théologie. Puisque le Christ, c'est l'Adam parfait. L'Adam qui est celui qui est chef du corps mystique. Qui est source de la grâce. Donc, de la recréation. Et le premier Adam, c'est celui qui est au point de départ de toute l'humanité. Responsable de toute l'humanité. Alors, vous comprenez, si j'ai un schème d'évolution, c'est pas commode du tout de comprendre que le premier Adam soit un prince de l'humanité, pauvre humanité, d'avoir un prince qui est pas très glorieux, qui est perdu dans les nuages, alors que dans la lumière de la révélation, Adam et Ève sont responsables de toute l'humanité. Ils ont eu une grâce capitale par rapport à l'humanité. Comme le Christ a eu une grâce capitale par rapport à la recréation, par rapport à la reprise de tout, par rapport à la rédemption, par rapport au don de la grâce. C'est ça qu'il faut voir en premier lieu. Si on ne voit pas ça, c'est pas la peine de chercher. Tout le reste ne signifie rien. Une fois qu'on comprend ça, on comprend que si la tête tombe, il y a des conséquences sur tout le reste. Vous voyez, c'est le mystère du corps mystique qui éclaire ce corps de toute l'humanité. L'humanité a une certaine